Alors la question de Ilan.
Comment, quel argument il faudrait que je dise à des gens non religieux pour les sensibiliser à la Torah?
Tout dépend quelle sorte de gens, parce que tu as non religieux qui sont croyants en Dieu, il y en a qui sont athées, ne croient pas en Dieu, il y en a qui sont anti-religieux, il y en a qui sont proches et ils jeûnent à Kippour, ils ne mangent pas de porc, mais il ne faut pas plus que cela. Alors, c'est de qui tu parles?
Des gens qui pensent que la Torah n'est pas forcément vraie, qui pensent que c'est un peu gonflant, quoi, que c'est saoulant de faire toute la Torah, que c'est...
Mais ils font Kippour, ils font Kippour par exemple?
Non.
Ils font pas Kippour. Ils mangent du porc?
Ouais.
D'accord, ils croient en Dieu?
Oui, ils savent qu'il y a Dieu. Mais...
Quel Dieu? Dieu d'Israël?
Non.
Donc quel argument utiliser pour les faire venir la Torah? Bon, en gros, l'argument de base que nous utilisons est le suivant. C'est les attaquer. En les critiquant, qui sont des croyants. Et que nous, les religieux, au contraire, on n'est pas des croyants. Jusqu'à maintenant, la cassette qui vous est tournée, vous croyez, bon. Nous, au contraire, on est des gens qui sont intelligents, cartésiens. Donc on ne croit pas à ces bobards de trucs de Torah, il faut mettre des fils au bout des habits, des boîtes de train, le porc, c'est dans le temps, c'était malsain, l'électricité, parce que dans le temps pour faire du feu, il fallait beaucoup de travail, c'est des arguments bidons, d'accord, qu'ils ont. Ils nous prennent pour des croyants un peu idiots. Leur dire, vous êtes des croyants, nous on est des sachants. Où est la nuance? Très clair. Moi je peux prouver. Je peux prouver par A plus B, son la plus irréfutable qui soit. D'abord, il y a un cours comme ça sur Internet, d'accord, de façon la plus irréfutable qui soit, que la Torah d'origine divine. Toi, tu as des preuves de ce que tu crois? Prouve. Bon, il faut leur dire, leur petit sens, nous, on a des preuves. Vous n'avez aucune preuve. Ils diront, ok, montre-moi des preuves. Tu veux vraiment? Sincèrement, tu lui donnes la cassette, le machin, c'est le mieux. Regarde. Mais sois honnête, moi, je lui donne, ça me coûte de l'argent, d'accord, 2 euros le CD. J'en ai plus aucun, d'accord. Il faut les graver, voilà. Mais regarde et donne-moi une réponse. Là, déjà, tu as donné un coup de poing énorme. Donc, s'il ne veut pas regarder, il dit qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a des preuves. Mais s'il veut absolument pas, il veut pas regarder, tu peux dire écoute, il y a des trucs quand même qui sont bizarres dans la Torah. Tu dis par exemple, regarde, c'est la preuve des poissons, d'accord. C'est marqué comme ça dans la Torah, c'est marqué qu'un animal marin, pour être cachère, il doit avoir deux signes de pureté, avoir des écailles et des nageoires. Il y a la Gemara, qui est écrite il y a 1600 ans, et elle nous dit, c'est dans Chouline, page 61, elle nous dit que chaque poisson qui a des nageoires, qui a des écailles, forcément il a des nageoires. Par contre, il y a des poissons qui ont des nageoires, mais pas d'écailles. Et je lui dis, regarde, va sur Internet, c'est marqué qu'il existe 25 000 sortes de poissons. Toi, tu fais mieux d'abord. Tu lui dis, combien de sortes de poissons tu connais, toi? Vas-y. Au bout de 10, il s'arrête. Si c'est un super grand océanologue, ils t'ont dit 60, après il est déjà comme ça, il y a tous les sortes de poissons, la sole, la perche, le thon, le dauphin, machin, la pieuvre. Tu lui dis, t'es nul, 100, 500, on ne sait rien. Il y a 25 000 espèces de poissons, 25 000 qu'on pense, on estime. Il y en a qu'aucun œil humain n'a jamais vu, dans la fosse des Philippines, 11 000 mètres sous les eaux. Des trucs extraordinaires, des animaux, des trucs. Un rabbin, qui, Minastam, je pense, n'a jamais vu la mère de sa vie. Peut-être qu'il a vu sa mère de loin comme ça. D'ailleurs, la Torah, elle vient d'où? Elle vient de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a vu la mère une fois dans sa vie. Il est né en Égypte. Après, il a fui, c'est dans le désert de Midian. Une fois de sa vie, il a vu la mer rouge. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle. Il se met à courir. Il fonce, tac, il arrive, pioup, elle s'ouvre en deux. D'accord? Il est passé à pied sec. Un poisson, il n'a pas vu de sa vie. Le pauvre, il est mort dans le désert. Il n'a rien que le soleil, le sable, toute sa vie. Pas un poisson. Et Moshe Rabbeinu, il dit, parce que la Torah orale, on pourra prouver, ça provient de Moshe Rabbeinu, il dit, si tu prends un poisson, il a des écailles, forcément, il y a des nageoires. Imagine qu'il se trompe. Imagine qu'un jour, on découvre dans une mer, voilà, un tout petit poisson, minuscule, qui a des écailles et pas de nageoire. Combien il vaut ce poisson? Combien il vaut? Des milliards. Allô? Ahmadinejad Jad. J'ai le poisson. La force d'Israël, c'est leur Torah, leur foi. T'achètes des scuds, des shahab, des missiles, t'envoies des milliards de missiles maintenant, pour des milliards de pétrodollars, t'envoies des missiles maintenant au Liban, tout ça. Un petit poisson. Tu vas à Meachar, tu vas à Bnei Brak, l'herbin vérifie, le poisson, il a les écailles, pas de nageoire. Donc la Gemara s'est plantée, donc la Mishnah s'est plantée, donc la Torah s'est plantée, donc Moshe Rabbeinu s'est planté. Bikini, Acapulco. Maintenant, ça sert à rien. Le rabbin qui a écrit ça, et ça sert. Pourquoi il a écrit ça? Quand tu as acheté ton poisson, tu dis, monsieur le poissonnier, bonjour, j'aimerais un poisson cacher, qui a des écailles et des nageoires. Quatre syllabes. On remercie beaucoup Rabbi Danassi qui a écrit cela, qui nous a indiqué maintenant qu'il a fait, un grand acte de bonté envers l'humanité, parce qu'il a économisé à l'humanité quatre syllabes. Tu multiplies par le nombre de vendredis que tu as acheté le poisson, le ménager a acheté le poisson pour Shabbat, tu multiplies par le nombre de Shabbat qu'il y a, par la population juive qui est durant l'histoire, ça fait des seaux et des seaux de salive que Rabbi Danassi a économisé à l'humanité. Un grand merci. Mais je lui dis, non mais, qu'est-ce que tu as risqué? Si maintenant, tu comprends le risque, un rabbin intégriste, fondamentaliste, obscurantiste, pas du Moyen-Âge, du Moyen-Âge, de l'époque romaine mauvaise, d'accord, la décadence romaine, qui ne connaît pas la mer, qui n'a jamais été, il a été peut-être au bord de la plage ici, il n'a jamais été dans d'autres pays, il n'a jamais été aux Philippines, rien, il ne connaît rien. Il te dit, c'est basé sur aucune étude statistique scientifique, on ne peut pas faire de lien scientifique entre le fait d'avoir des écailles et des nageoires. Rien. Il te dit, se basant sur une Torah orale, il te dit, chaque poisson dans le monde qui a des écailles, forcément il a des nageoires. Et s'il y en a un qui c'est le contraire, toute la Torah est fausse. Pourquoi il dit ça? Il prend un risque énorme. On est forcé de dire qu'il savait. Mais d'où il savait? Comment un rabbin peut savoir, il y a 2000 ans, que tous les écailles, tous les poissons au monde qui ont des écailles ont des nageoires? Ça ne tient pas la route. Alors maintenant, tu prends un autre exemple. C'est les animaux purs et impurs. Un animal, pour être pur, il doit avoir deux signes. Avoir le sabot fendu et ruminer. La Torah cite quatre animaux qui ont un seul des deux signes. Chazir, Gamal, Shafan, Arnevet. Chazir, c'est le porc. Gamal, c'est le chameau. Shafan Arnevet, on ne sait pas ce que c'est. Ça a été traduit en hébreu moderne par un crétin d'Asie qui s'appelle Ben Yehuda. J'allais l'appeler Rabbi Yehuda, d'accord. Eliezer Ben Yehuda, d'ailleurs, sur le pauvre, il a une rue aujourd'hui en enfer, en son nom, d'accord. Un des boulevards de l'enfer est appelé en son nom. Et lui, il a dit que Shafan Arnevet, c'est lapin et gerboise, ce qui est ridicule. Parce que la Torah dit que le chameau, la gerboise et le lapin, d'après sa traduction, ils ruminent, ils n'ont pas le sabot fendu. C'est lui qui a un sabot qui n'est pas fendu, donc ils ont un sabot qui n'est pas, ils n'ont pas le sabot fendu, mais ils ont un sabot pas fendu. T'as déjà vu un lapin avec des sabots? Impossible. Donc c'est une preuve. Par A plus B, comme quoi Shafan Arnevet, traduction de Ben Yehuda, c'est la gnognotte, c'est tout faux. Ce sont deux animaux qu'on ne connaît plus aujourd'hui. Espèce éteinte. Donc en fait, il reste deux animaux, le porc et le chameau. Le porc, il a le sabot fendu, mais il ne rumine pas. Le chameau, il rumine, mais il n'a pas le sabot fendu. Les deux sont inverses. D'accord, le chameau et le chazir. Qui ont un des deux signes. Tout le reste des animaux au monde ont ou bien les deux signes, ils sont cachers, aucun des deux, ils ne sont pas cachers. La Torah dit, c'est ça, il n'y en a pas d'autre. Comme ça, c'est une gemara un peu compliquée. Elle dit comme ça. Il dit, si quelqu'un se promène dans le désert et rencontre un animal dont la mâchoire est abîmée. Pourquoi? Parce qu'on sait que les animaux cachers, ils ont des dents que en dessous et pas dessus. Pas d'incisive. Ils n'ont pas d'incisive. L'animal, il a la mâchoire éclatée. S'il a le sabot fendu, et ce n'est pas un porc, il est cachère. Normalement, c'est un sabot fendu. Il a un mâchoire éclatée, je ne peux pas voir s'il est cachère. Je ne peux pas voir s'il est cachère ou pas. Sabot fendu, c'est bon, mais il faut un deuxième signe, voir s'il rumine ou pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, une girafe. D'accord? Tu vas dans le désert maintenant. T'as faim. T'as faim. Quand il y a des lézards, tu ne vas pas manger, c'est pas cachère. Il y a de l'herbe. Oh, tu vois, ça fait 3 semaines que tu ne manges que de l'herbe. T'aimerais un bon steak. Tu vois une girafe. Toi, t'es chorrette de métier. T'as justement, comme heureux hasard, tu as avec toi un couteau de chorrette. Girafe cachère ou pas? Tu sais pas. T'attrapes la girafe, tu le tords le cou comme ça, et tu l'éclates la tête. Boum! D'accord? Bon, la mâchoire est démolie. Tu peux pas voir ça. Est-ce qu'elle a maintenant, elle a les mâchoires, des incisions de mâchoire supérieure, oui ou non? Tu peux pas savoir. Alors, faut voir ce qu'elle a sabot fondu. Elle a sabot fondu! Faut vérifier quoi? Encore deuxième signe, qu'elle rumine. Comment on fait pour vérifier si elle rumine ou pas? Faut mettre son bras dans le cou et voir combien d'estomac est là. Mais t'as vu mon bras et t'as vu le cou de la girafe. C'est pas possible. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Alors Rav Huna a dit, Rav Hizda a dit, si c'est pas un porc, il est cachère. Parce que tu as un seul animal au monde qui a un des deux signes, qui a sabot fendu et rumine pas, c'est le porc. À part ça, dans le monde, tous ceux qui ont sabot fendu, forcément ruminent. Donc si c'est pas un porc, il est cachère. La girafe est cachère. On n'a pas de massorette, on n'a pas une tradition de la manger. Au niveau strict, elle est cachère.
Il y a donc, deux animaux encore, il y en a quatre.
Disparus, j'ai dit. Chafan, Arnavet n'existe plus, on ne sait pas ce que c'est. Hein? Rambam, déjà, il ne les cite plus. Plagmar aussi, Rav Hizda, parce que Rav Hizda dit aussi la même chose pour le chameau. Pour le chameau, Rav Hizda dit aussi, donc du temps, Plagmar aussi. Rav Hizda dit, si je vais maintenant dans le désert, et je vois un animal qui a de nouveau la mâchoire qui est éclatée, et il rumine, mais tous les sabots ont été coupés, mais il rumine. Si c'est pas un chameau, forcément il est cachère, parce que tu as un seul animal au monde qui rumine et qui n'a pas sa peau fendue, c'est le chameau. Maintenant, trouve dans le monde, et il y a un type, comment il s'appelait? Un explorateur allemand, antisémite, dont j'ai oublié son nom. Il a parcouru pendant 10 ans, c'est au 19e siècle, 10 ans, il a parcouru toute l'Afrique, de long en large, il a retrouvé un animal à part le chameau et le porc, qui est un des deux signes. Et revenu, bredouille. Aujourd'hui, on sait, ça n'existe pas. Et je te dis qu'ils ont cherché. C'est vraiment pas d'anti-religieux. Ils cherchent. Ça n'existe pas. Comment Rav Hizda, c'était pas un zoologue. Comment il sait dans le matin? Il y a des animaux tellement bizarres, des iguanes, des kangourous. Il a vu un kangourou une fois dans sa vie, tu crois Rav Hizda? Un kangourou? Il a jamais vu un kangourou, il sait pas ce que c'est. Il a vu un ours dans sa vie, il sait pas. Il dit, c'est comme ça. Sur la base de quoi? La Gemara pose la question. Est-ce que Moshe Rabbeinu, c'était un chasseur, un zoologue? Il dit, la Gemara, elle répond, mais Kan Tshuva, de la réponse à ceux qui disent que la Torah n'est pas du ciel. L'homme est Nashamay. C'est super solide. Ouais. Choulin. Ravasi, Rav Ami. C'est dans Yoma, page 75, A ou B, j'ai oublié. Ils disent, il y a un verset qui dit, Yeshayahu nachash afar lachmo. Le serpent se nourrit de poussière. Attends. Preuve, diront ta famille non religieuse, que les rabbins sont des crétins. C'est clair, de quoi se nourrit un serpent? Pas de poussière. De bestioles, de souris, d'accord? Réponse, tu crois vraiment que ces rabbins étaient crétins à ce point? Ils ont vu plus de serpents dans ta vie que toi. D'accord? L'Européen à Paris, il n'a jamais rarement vu un serpent, si ce n'est au musée d'histoire naturelle ou au National Geographic. Mais en vrai, comme ça, dans sa maison, c'est très rare. Ici, en Israël, ça pullule le serpent. Ils en ont vu. Et ça, très bien. Qu'est-ce qu'ils mangent de serpent? Ben, ils mangent des petites bestioles, des petites souris, des machins, des rats. Pas de la poussière, c'est pas nourrissant la poussière. Alors comment c'est que Isaïe dit Afar nahash afar l'armo, le serpent se nourrit de poussière. Dit Rabbi, ah si, faut dire qu'il y a une paraphrase. On veut dire quelque chose, quoi? Tout ce qu'il mange n'a que le goût de poussière. Quand un serpent il mange un rat, tu sais, il y a un très bon plat japonais, le rat laqué. D'accord? Et bien quand un serpent prend un rat laqué, mange un rat laqué, et bien il sent rien, comme la poussière. Bon, très bien, on a compris maintenant le verset de Isaïe. La question se pose maintenant sur qui? Sur Rabbi Ami, Rabbi Assi. Comment Rabbi Ami, Rabbi Assi, savez-vous le goût qu'éprouve un serpent quand il mange du ralaké? Comment on peut faire un truc pareil? Il faut faire abacadabra. Je deviens serpent. Je mange du rat. Je vois que ça n'a aucun goût. Je fais abacadabra dans l'autre sens. Je redeviens Ronchaya. Je vous dis, écoutez, j'ai été serpent quand j'ai goûté. Voilà. Mais comment un être humain peut savoir le goût qu'éprouve un serpent quand, hein, ils ont pris du rat pimenté, ils ont mis du rat doux, d'accord, ils ont regardé des avec des serpents. Quand, c'est de la blague. Très bizarre. On découvre dernièrement, et là j'amène les écrits scientifiques, d'accord, les animaux à écailles tels que le serpent ont la langue dépourvue de papilles gustatives. C'est-à-dire que quand ils mangent, ils sentent rien. Comment il sait si la proie est comestible ou pas? Il a, ça s'appelle l'appareil de Johnson, quelque chose comme ça. Ils ont une sorte de... Le serpent, il sort avec sa langue. Sa langue, et il touche la proie. Et il y a des cellules de la proie, c'est des rien, c'est des poussières de cellules, d'accord, qui se mettent sur sa langue, qui rentrent, et dans le palais du serpent, il y a deux cavités. La langue rentre dans les deux cavités et rentre dans cet appareil de détecteur de molécules qui va voir, est-ce que ce truc-là, c'est une pierre, c'est pas comestible, ou c'est du lapin, c'est du rat, c'est comestible. Ça répond feu vert, feu rouge, tu peux comestible, tac, il le prend. Sinon, pas. Mais du goût, il n'y en a pas. Comment savait-il Rabbi Ami, Rabbi Assi, il y a 2000 ans, que les serpents, quand ils goûtent, quand ils mangent, ils n'éprouvent pas de goût?
Donc, il y a des savoirs sur les plantes qui s'est perdu complètement. Même aujourd'hui, dans l'industrie pharmaceutique, on utilise en quelque sorte.
D'accord, mais tant qu'il, regarde, qu'il y a un savoir scientifique, je veux bien. Mais un savoir qui est déjà même pas scientifique aujourd'hui, comme dire par exemple que tous les poissons qui ont des écailles ont des nageoires, c'est pas scientifique, c'est anormal. C'est anormal. Il n'y a pas de relation intrinsèque de l'un à l'autre. Que tous les animaux du monde qui ont le sabot fondu, à part ces quatre-là. Bon, la vérité, c'est qu'à la fin de ces conférences, moi je dis, il reste trois solutions. La plus farfelue que Dieu existe est la Torah d'origine divine, mais ça, j'en parle même pas. Les Martiens ont donné la Torah. Ça se peut, il y a l'équilibre. Les extraterrestres sont venus à savoir. Ou il y avait, comme tu dis, je dis l'Atlantide. Il y avait dans l'humanité un temps une société extrêmement avancée au niveau scientifique. Et il y a eu des restes et c'est arrivé dans les mains des Juifs. D'accord, ils ont toujours, ils sont un peu magouilleurs. Et voilà. Et bon, il y a un savoir qui est resté. C'est vrai. Alors là, après d'habitude, on passe aux prophéties. Ça, c'est la preuve irréfutable. Ça, déjà, c'est des trucs. Voilà.
Non, tout ça à sa famille. La famille, elle
ne
peut pas écouter, elle s'en fout.
Regarde, s'en fout, on ne peut rien faire. Tu sais, il veut rien, il veut rien. S'il ne veut pas, on ne peut pas vouloir sa place. Il y a un truc que quelqu'un est libre, c'est vouloir. Tu sais, il peut voir la vérité en face de lui. J'en ai eu. Tac. Il veut dire, tu ne peux pas plus l'enfoncer comme ça, d'accord. Il dit, je ne veux pas. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux le faire bouffer de force. Je ne peux pas.
C'est amusant, d'accord, en fiche à
mot. C'est le railleur. C'est un railleur, c'est un rigolo. Alors dis, tu veux être sérieux? Regarde le coup, la première phrase. Amen, on attend la preuve. Le type qui me démontre ça, je l'attends encore. Je ne l'ai pas encore vu. Alors, il m'a dit, Jonathan, que dans la synagogue, ils disent, voilà, il y a eu deux scénarios. D'accord, un truc bidon, mais ils sont pas là, qui me l'écrivent. Moi, j'ai répondu, comment, en 10 secondes, j'ai dit que je vais casser la contre-argumentation. Que quelqu'un, il dise, je peux argumenter contre, et sans me l'écrire, sans que me laisser le temps de lui répondre, ça, c'est facile. Amen.